Dites-moi, qui a jamais acheté quelque chose? Tu avais souhaité, espéré, cherché, étudié. Quel est le meilleur, celui ou celui-là? Quel téléphone, le S6 ou l'iPhone 6? Ou... Bon, c'est vieux déjà, ça, je sais. Mais qui a acheté, qui a fait ça? Oui, tout le monde. Hein? Un gadget, quelque soit. Ou qui a réfléchi, surtout les jeunes, le travail? Quel travail est-ce que je vais faire? Après, pour ceux qui sont plus loin que les jeunes, à un moment donné, on a réfléchi, mince, ce travail-là, ça ne me convient pas exactement, donc qu'est-ce que je veux faire avec ma vie? C'est pas ça, est-ce que c'est ça? Ou même la maison, qui a acheté une maison? Nous, on a une maison au Canada. qui a acheté ou loué? Tout le monde, on habite tous quelque part, hein? Donc, heureusement. Mais on a cherché la maison, on a cherché le quartier, est-ce que c'est un bon quartier, est-ce que c'est le quartier qui me convient, est-ce que... Voilà. Et puis, on arrive dans la maison. On est tranquille, on est heureux, on est calé, finalement, on n'a plus de soucis. Et après, quelques temps après, on commence à connaître les voisins. on a des visites des voisins ou des envoyés des voisins avec bon costume bleu, casquette et tout l'équipement gendarme. Vous faites trop de bruit. Ça, c'est nous aussi. Après, cette maison qui semblait, cet appartement qui semblait tellement bien, ça perd un peu son lustre. Hein? C'est pas aussi bien. Un peu plus sévère. Ça, celui-là, c'est un peu plus sévère. On est fiancé, on se marie, on est heureux. 2 ans après, on commence à connaître vraiment le caractère de celui-là qu'on a épousé. 5 ans, 10 ans, ou le pire, c'est les couples, et je vise personne, mais les couples 20 ans après commencent à dire, mais c'est pas ça. Et ils mettent tout en question. C'est terrible. Et c'est dur, tout ça. Ou même, et ça peut être dans n'importe quel domaine dans ta vie, où tu as espéré tellement pour quelque chose, et après, tu arrives avec ce quelque chose, et le classique, c'est ce truc-là, et ça, ils ont vendu ça comme c'était la plus merveilleuse chose du monde, et après tu réalises que c'est le truc qui t'embête le plus chaque jour de ta vie. Et on peut vivre avec, mais on aimerait bien vivre sans. Donc, tenez avec moi en Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Il y a des Bibles pour ceux qui n'ont pas une Bible. Apocalypse, dernier livre de ce grand livre, la Bible. Apocalypse 2, chapitre 2, verset 1. Moi, je ne vais pas lire de la seconde 21 que vous avez tous, peut-être. Je vais lire de la Bible de Semeur, donc ça, c'est la même chose, mais ce n'est pas les mêmes mots nécessairement. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as prouvé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change d'attitude et reviens à ta conduite première. Sinon, je reviendrai à toi et je ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas d'attitude. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes ce que font les Nicolaites, comme je les déteste moi-même, moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Éphèse. Cette ville où Paul souhaitait tellement aller dans son premier voyage, mais le Seigneur n'a pas permis qu'il entre en Asie et il a eu ce rêve d'un homme en Europe, en Macédoine, qu'il a appelé à aller en Macédoine. Donc, il n'est pas allé en Asie, et Éphèse était la capitale de la province d'Asie, province romaine. C'est que le deuxième voyage qu'il est allé là, cette ville, d'entrer dans cette ville, c'était sur une baie. Aujourd'hui, c'est à 5-6 kilomètres de la mer Égée. Mais à ce moment-là, c'était sur la mer, dans une baie, un port très important à la croisière de trois chemins de commerce, très important dans le monde romain. C'était la quatrième, cinquième ville de l'Empire romain. Quand on arrivait dans la baie, tu avais une grande allée avec des piliers en marbre qui montaient vers le temple d'Artemis et un grand théâtre ovale comme les Grecs et les Romains aimaient construire. Donc, et le temple était énorme. C'est considéré comme un des sept merveilles du monde antique. Donc, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant d'arriver dans cette ville. Donc, dans cette ville, c'est là où Paul est arrivé. Et c'est là où il a commencé d'évangéliser et il a fondé l'église à Éphèse. Un peu plus tard, sur son dernier voyage, avant le voyage à Rome pour voir César, le troisième voyage, quand il est arrivé à Éphèse, je vais lire ce qu'il dit en partie de son speech qu'il a dit aux anciens de l'église d'Éphèse et des églises autour, en Actes chapitre 20. Il dit, « Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'église que le Saint-Esprit a confié à votre égard. Comme de bons bergers, prenez soin de l'église de Dieu, qui s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous. Ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui employeront un langage mensongère pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un et parfois même avec les larmes. » C'est cette église que Paul a fondée, cette église après qu'il a donné à Timothée de diriger, de guider. Et après, apparemment, l'apôtre Jean est arrivé là et c'est lui qui a pris la charge d'Éphèse et a guidé cette église. Jean, surnommé par Jésus, un des fils de Tonnerre. Il était pour la vérité, pour les choses de Dieu. Il voulait que, je crois que c'était d'appeler la foudre sur ceux qui se moquaient de Jésus. Jean, l'apôtre d'amour. Quand tu refais une recherche sur le mot amour dans le Nouveau Testament, c'est les écrits de Jean qui sortent le plus le mot amour dans le Nouveau Testament. C'est lui qui a écrit sur l'amour. Donc, Jean, pour la vérité et pour l'amour. Et puis, Jean, il reçoit ce visite de Jésus en Apocalypse, dans la lettre, dans ce qu'il raconte là, qu'on vient de lire. Et on peut imaginer son surprise quand lorsque Jésus commence de partager ce qu'il veut dire avec Jean, que d'un coup, le premier message qu'il donne, c'est pour son église, l'église à Éphèse. Autre que Éphèse, Jésus amène des messages à 6 autres églises, tous dans la région autour d'Éphèse. Celui-là, c'était spécifiquement pour l'église, les chrétiens d'Éphèse. Et avant que je continue, je vais prier. Je réalise d'un coup. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui nous pouvons être ici. Merci parce que ta parole est vivante. Merci parce que cette parole peut nous enseigner, elle peut nous instruire, elle peut nous guider, elle peut nous corriger dans comment nous vivons. Et Seigneur, je veux vraiment me soumettre à toi ce matin, que tout ce que j'ai dit, ça vient de toi. Et que tu touches nos cœurs et que tu nous parles. Sois notre vision, Seigneur. Sois notre appui. Sois notre espérance en toutes choses. Sois avec toutes les autres églises de cette ville ce matin qui se réunissent. Que tu guides chacun qui parle, qui ouvre ta parole ce matin, qui parle de toi pour enseigner, pour instruire, pour guider ton Église. En ton nom, Jésus. Amen. Donc, imaginez le surprise de Jean quand Jésus commence de partager ce message pour son Église, l'Église que lui, il a guidée, qu'il a voulu soit fondée sur la vérité, le Fils de tonnerre, mais qui voulait être plein d'amour, plein de compassion. Cette Église qui a reçu cet avertissement de Paul il y a si longtemps avant, sur les plages, de faire attention parce qu'il allait venir du milieu d'eux. Il allait venir des loups qui allaient essayer de diriger les gens vers un faux évangile, une fausse vérité. Donc c'est dans ce contexte que ce message était écrit au peuple, à l'Église. Et c'est dans ce contexte que nous, on le reçoit. Et aujourd'hui, on le regarde et on essaie de voir comment est-ce que cette lettre, comment est-ce qu'elle nous touche et qu'est-ce qu'elle a pour nous d'aujourd'hui. Donc, ce petit message, il a plusieurs morceaux dedans. Il y a d'abord une recommandation, quelque chose de positif, un message positif pour l'Église. Il y a une plainte que Jésus amène contre l'Église. Après, il donne un plan pour gérer ce problème. Et après, il y a une sorte de vision pour l'avenir, s'il met en pratique le plan que Dieu leur donne. Donc d'abord la recommandation, la bonne chose, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Ils étaient assidus pour les choses de Dieu, pour l'évangile. il persévérait. Il dit, je connais la peine que tu prends et la persévérance pour vivre pour moi. Ça, on voit là le fils de tonnerre qui a bien enseigné, bien mis les choses au clair pour cette église. Qu'il persévérait, il tenait bon contre les différentes choses. On voit là qu'ils avaient entendu l'avertissement de Paul, qu'il allait avoir des loups qui viennent pour essayer de détourner les gens. Il s'accroche à la vérité. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as décelé qui mentait. Donc, encore cette idée de bien fondée sur la vérité. Ils savaient ce qui était la vérité et ils pouvaient discerner le faux prophète, le faux apôtre. Pas l'apôtre comme l'apôtre Jean, Pierre, hein, mais l'apôtre, on veut dire aussi messager, quelqu'un envoyé. Et à ce moment-là, presque n'importe qui pourrait commencer de voyager d'église en église et dire, moi, je suis messager de Dieu, j'ai un message pour vous, voilà le message de Dieu pour vous. Et il faisait le circuit des églises, un peu comme Paul a fait, mais comme on lit à un autre moment dans les voyages de Paul, que les Béréens, ils prenaient le temps, ils prenaient la peine, ils étudiaient qu'est-ce qu'ils disaient, est-ce que c'était vrai par rapport à la parole ou non, comme les Éphésiens, ils ont fait avec les autres, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ce qu'ils disent. Et Jésus leur dit, ils ont pu discerner, voir qu'ils mentaient. Ce n'était pas vrai. On ne sait pas qu'est-ce que c'était, cet enseignement. Mais on sait qu'à ce moment-là, il y avait plein de fausses doctrines qui circulaient sur la personne de Christ, qui était le Christ, est-ce qu'il était fils de Dieu, est-ce que c'était un ange, est-ce que c'était qu'un homme, est-ce que c'est toutes sortes de faux enseignements. Qu'est-ce que c'était la connaissance? Est-ce que la connaissance était suprême? Est-ce qu'on était vraiment chair et os? Ou est-ce qu'on était... Il y avait plein d'enseignements étranges et bizarres qui circulaient. Et il fallait vraiment un discernement sur qu'est-ce que c'est la vérité et qu'est-ce que c'est le mensonge. Et là, Dieu leur dit... Ils arrivaient à discerner la vérité et le mensonge. Et il dit, ils sont résistants. Résistants, ils persévéraient. Il dit, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Là, les mots que Jean utilise ici, c'est pas juste de continuer, mais c'est vraiment de porter le fardeau, de porter quelque chose de lourd et de continuer avec ça. Et donc, ça décrit bien la mentalité que malgré tout, malgré la persécution, on voit même dans l'expérience de Paul dans la ville où il a eu une grande persécution, il a eu cette grande confrontation avec les artisans de la ville qui voulaient supporter leur déesse Artemis. Donc il a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de persécutions à cause de ça déjà très tôt dans la vie de l'Église. Et donc là, il dit, vous avez persévéré. Et c'est bien, c'est bien. Donc on voit encore, on voit que cette église reflète bien, il porte bien la ADN, on peut dire, de ce qu'ils ont fondé et ce qu'ils ont fait grandir. Entre Paul et Timothée et Jean, on voit bien la ADN de ces grands hommes qui ont porté cette église. Et après, qu'est-ce qu'on lit? Le prochain verset, après tout ça, dans cette Bible, la traduction dit, « J'ai cependant un reproche. » Je crois dans le second 21, ça dit « mais ». Mais, on n'aime pas ça. On n'aime pas être encouragé. Et c'est presque trop bon. On sent, c'est bien, on persévère, on est assidu, on cherche la vérité, on tient bien la vérité. Mais, aïe, qu'est-ce qui arrive? Et c'est tout quand c'est Jésus qui dit mais. Donc Jean, il dit mais, qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est terrible d'entendre, j'ai cependant un reproche à te faire. C'est terrible. Et qu'est-ce que c'est? Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. C'est terrible d'entendre ça. Ça fait fondre le cœur de ces gens qui cherchaient la vérité, qui voulaient avoir l'amour pour les gens autour d'eux. Mais que Jésus dit, t'as perdu ton amour pour moi. Comment est-ce que ça peut arriver d'arriver jusque là? Encore, c'est terrible. Tout ce qui m'a lancé dans ce message, c'est un verset en Cantique des Cantiques, où le bien-aimé dit à son aimé, en chapitre 2, 15, elle dit, « Prenez-nous les renards, oui, les petits renards qui ravagent nos vignes, qu'elles sont en fleurs. Prenez-nous les renards, oui, les petits renards qui ravagent nos vignes, qu'elles sont en fleurs. » Et ce livre de Cantique des Cantiques, on peut le lire de beaucoup de manières, de façons, mais on peut le lire soit côté humain, l'amour de bien-aimé pour l'aimé et l'aimé pour le bien-aimé, ou on peut le prendre comme un exemple de l'amour pour Christ, pour nous, l'Église. Mais en tout cas, ce petit verset, « Prenez-nous les renards, oui, les petits renards qui ravagent nos vignes. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est souvent, ce n'est pas les grandes choses qui font que notre amour perd la grandeur de début dans nos vies. Dans notre relation, que ce soit la relation avec notre bien-aimé, cette chose-là, ou notre maison, ou pire, un amitié, ou encore pire, notre époux ou épouse, ou l'Église avec Christ. C'est des petites choses qui se mettent au milieu, les petits renards qui viennent. L'image les renards étaient des pestes pour les Israélites dans les champs. Ils venaient, ils fouillaient dans les racines des vignes, ils dérangeaient les vignes, ils faisaient tomber les fleurs des vignes, tout ça, et ça faisait qu'ils n'avaient pas une bonne récolte. Et l'image là, c'est au moment de floraison du vigne que les renards viennent, ils dérangent, ils créent le bazar dans les vignes, et qu'après, le vigne ne pousse pas comme il faut, ça se développe pas dans une bonne récolte de raisins pour le vin. Donc, c'est des petites choses qui nous arrivent dans nos relations. Ça peut être une mot mal placé. Ça peut être une accumulation c'est une accumulation de petites choses dans la vie qui fait que si c'est pas réglé, tôt dans la vie, que quand ça accumule, ça devient un truc presque impossible à dénouer et régler. Et des fois, on ne voit pas. On ne voit pas accumuler, on ne voit pas venir jusqu'à ce que c'est vraiment des grandes choses. Mais l'enseignement là, c'est vraiment de faire une sorte de faire attention à ces petits renards dans la vie et de les chasser quand c'est facile à chasser. Un petit renard, pas tout un foule de petits renards. Donc, ce mot que quand Jésus dit à Jean pour l'église d'Éphèse, j'ai cependant un reproche à te faire, d'abandonner l'amour que tu avais au début. Comment est-ce que ça leur est arrivé? Une possibilité, parce que c'est pas explicité ici. Comment c'est arrivé, mais en réfléchissant dessus, c'est une possibilité, c'est cette accroche que j'en avais pour la vérité. Qu'est-ce que ça peut devenir d'accrocher à la vérité? Ça peut devenir de l'égalisme, très légaliste sur la vérité et sur les choses. Ou l'amour pour l'autre. D'un coup, ça peut devenir... on accepte beaucoup de choses dans la vie des autres. Et petit à petit, ces choses, ça infiltre notre relation avec Jésus. Et ça fait qu'il y a des obstacles dans notre relation avec lui, qui fait qu'on a, plus cette premier amour, cette première passion pour Jésus. Quand on est nouveau-né avec Jésus, quel est le sentiment qu'on a quand on est nouveau avec Jésus dans la vie? On découvre Jésus, on découvre qui il est. On a eu quelqu'un qui nous a dit à un moment donné, j'ai plus ma place dans l'église. J'aime Dieu, etc., mais j'ai plus la place dans l'église, j'ai plus envie d'aller, ça m'a fait rien, l'enseignement m'apporte rien, etc. Vraiment, ça se voyait que ce premier amour se perdait. Et de toute ma grande sagesse que j'ai, non, pas trop, mais j'ai pu dire, revenir à Jésus. Reviens à Jésus. Lire les évangiles. Découvre Jésus de nouveau. Qui il est. Regarde-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a traité les gens? C'est ça ce qu'on a aimé quand on découvre Jésus pour la première fois. Comment il a traité les gens? La compassion qu'il avait pour les gens. Son amour pour les gens. En même temps, la vérité. Il n'avait pas peur de dire la vérité des choses. Mais c'est lui qui a pris la peine de s'arrêter sur son chemin pour parler avec l'homme aveugle, de prendre le temps pour demander « Qu'est-ce que tu veux, Bartimée ?» et de poser ses mains sur lui et de le guérir. Où il a pris le temps pour voir cette femme qui avait perdu son enfant, d'aller dans la maison de cette femme et de poser ses mains sur cet enfant et de ramener la vie à cet enfant. C'est ça ce qu'on aime de Jésus, cette compassion, la puissance qui est là. Et c'est ça que... Pourquoi on aime le louer, l'adorer? Parce qu'on voit en lui toute la grandeur de Dieu et toute la compassion de Dieu et tout ce qui fait que c'est vraiment glorieux de adorer et glorifier Jésus. Donc, J'ai dit à cette personne, revenir à ça, reviens à ça. Cherche ça et découvre ça de nouveau. Et plus tard, il dit oui, c'est ce que j'avais besoin, qu'il avait perdu ça. Et que lorsqu'il a fait ça, lorsqu'il a pris le temps pour lire, découvrir dans les évangiles, que oui, il avait trouvé de nouveau cet amour pour Jésus qui avait perdu la flamme de cet amour. Alors, faire attention pour les petits renards qui fait qu'on n'a pas le temps pour lire, pour découvrir Jésus. À nouveau, de nouveau, tous les jours, redécouvrir Jésus dans nos vies et de le voir agir dans nos vies personnellement. Donc, on a vu la recommandation, on a vu la plante et maintenant le plan. Le plan qui est présenté là. Comment s'en sortir de ce perte d'amour? Alors que nous sommes à ce point avec Dieu, avec les gens, dans notre famille, Dieu donne ici, il donne un plan pour revenir à notre premier amour. Il dit, allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Ou comme le second 21 dit, souviens-toi donc de où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Donc le premier dans ce plan que Dieu donne ici, c'est de souvenir. Prends le temps pour s'arrêter et de se souvenir. Qui a perdu les clés? Les clés de la voiture, les clés de la maison, dans la maison, lorsqu'on veut partir, quitter la maison pour aller quelque part, on ne trouve pas les clés, où est-ce qu'ils sont? Franchement, ils sont là où on les a laissés. Ils n'ont pas bougé. C'est que là, ça ne marche plus trop bien et on ne trouve plus, on ne se souvient pas où c'est qu'on les a laissés. Là, il dit, souviens-toi de là où tu étais. Les clés ne sont pas allées plus loin. Ils sont là où on les a laissés. Ou le bon exemple, c'est qui était là? Mitch et je ne sais plus qui. Saint-Martin-Vésubie, petit marche dans la forêt. On va au lac, le samedi, on va au lac, on revient et on tourne le mauvais côté. On va à droite au lieu d'aller à gauche. Et c'était quoi, 2 heures, 3 heures plus tard, on réalise que man, c'est pas le village, ce village, c'était pas sur le chemin pour aller au lac. Donc, nous, on avait monté au lac, en redescendant, on a raté un virage, on a pris le mauvais virage, et on arrive, Moulineau, c'est fin fond, on n'arrive pas à aller en hiver. Il faut des raquettes, tous les skis de fond pour aller en hiver à ce village. Il n'y a personne qui habite là, Christophe, il rigole parce qu'il imagine. C'est au fond, dans les Alpes maritimes, là. C'est fou. Et on avait marché longtemps, on était déjà fatigués. On arrive là, à Moulineau, allons Nathan. En fait, c'était Seb. Viens nous sauver, s'il vous plaît. Viens nous sauver. Hein? Donc, et puis, on est reparti. Qu'est-ce qu'on a fait? On est reparti, on a retracé le chemin où ils sont partis pour nous chercher parce que ça aurait pris trop longtemps pour nous d'arriver jusqu'à nos voitures. Donc, ils étaient des amis formidables qui sont venus nous chercher et nous prendre sur le chemin. Mais qu'est-ce que nous, on a dû faire? On a dû se souvenir d'où on était. Il fallait retourner, reprendre le chemin dans ce cas-là et arriver au point d'erreur, en fait. Et en fait, ils nous ont retrouvés avant que nous on a retrouvé le point d'erreur. Mais en prenant le bus avec Nathan, on a pu voir, on a dit oui, c'est là. Oui, c'est là qu'on a mal, on a pris le mauvais virage. Et puis il nous a amené à la voiture et puis voilà, on a pu manger un bon repas chaud à la fin. C'était sympa. Mais c'est classique. Quand on est perdu dans la forêt, si on n'est pas sur une piste en tournant rond, on est perdu. Et on a ce truc en nous qui nous fait tourner en rond si on ne perd pas le cap. Si on perd le cap, on tourne en rond. Ce que tous les spécialistes, Bear Grylls, il dit, il faut grimper l'arbre, clairement, il faut grimper un arbre, il faut prendre une vue plus vaste, repérer les choses pour nous donner le cap de nouveau. Il faut fixer quelque chose, il faut marcher vers quelque chose, sinon on tourne en rond. Donc, il faut se souvenir, il faut reprendre le cap et il faut revenir. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas retrouver l'amour sans revenir là où on avait laissé l'amour. Le deuxième, donc, se souvenir, c'est la première chose. Deuxième chose, il dit là, c'est clair, c'est tout là. Hein? Repentir. C'est essentiel de se prendre. Et là, quand on parle de repentance, on commence tous de faire « J'ai pas trop envie, j'ai pas envie de repentir, j'ai pas envie de repentir. » Parce que qu'est-ce que c'est la repentance? Est-ce que la repentance est juste de dire « Je suis désolé » comme quand on a travaillé au centre avec Paul et les autres, quand les enfants faisaient quelque chose de mal, on les confrontait et ils tombaient presque à genoux et ils disaient pardon, 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 excusez-moi. Mais 5 minutes plus tard, ils étaient là dans le gymnase en train de courir, jouer, ils faisaient presque la même chose. De nouveau. Donc, est-ce que pardon, 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 est-ce que ça c'est la repentance? Non, ça c'est pas le. C'est le premier pas dans la repentance. Que de réaliser, en fait, que oui, on a fait quelque chose qui est pas bien. Mais qu'est-ce que c'est la vraie repentance? La vraie repentance, c'est oui, d'avoir un vrai sens de ma culpabilité. Je suis coupable. Ça, c'est le premier pas. La deuxième chose dans la repentance, c'est d'être conscient de la miséricorde de Dieu pour nous. Cette miséricorde de Dieu qui a fait que c'est lui qui a tout fait pour qu'on soit pardonné. Il n'y a rien que moi je peux faire pour que je sois pardonné. C'est tout Dieu qui a fait le travail. C'est que Dieu qui a fait le travail. C'est pas moi. C'est lui. Dans son miséricorde, il a agi pour nous. Et c'est lui qui tend la main vers nous pour nous relever. C'est Jésus qui a payé le prix. C'est Jésus qui a allé jusqu'à la croix pour nos péchés. Que ce sacrifice soit une fois pour tout et que ça n'a pas besoin d'être fait 1000 fois dans ma vie, un sacrifice, parce que je ne suis pas capable moi-même de continuer de faire de bien, parce que même si je sais le bien, je ne le fais pas et quand j'ai envie, je n'arrive pas à le faire, comme l'apôtre Paul dit. Donc, être conscient, je suis coupable, je suis conscient de la miséricorde et après, est-ce que ça suffit là? Non. Il faut avoir vraiment une et c'est là que ça devient difficile, avoir de la haine pour le péché et de me détourner de cela et tourner vers Dieu. Donc, avoir de la haine pour le péché et de me détourner de cela vers Dieu. C'est ça la vraie La vraie repentance, c'est pas juste pardon, 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 d'aller et puis de continuer et de faire la même chose une fois encore. Donc, je sais que on a des luttes dans nos vies et il y a des péchés dans nos vies et on peut, on est dans une combat à ce niveau-là et c'est pas facile et des fois quand on fait ça, on fait la vraie, on répand vraiment. Je cherche les mots à bien expliquer, mais il y a une vraie repentance en nous et à cause de ce bataille, on retombe. Et merci Jésus qu'il est miséricordieux envers nous et on peut revenir à lui et on peut repentir de nos péchés. Donc, il est toujours là. Et c'est, quand je dis que c'est pas juste de dire pardon et de retourner faire ça, il y a des différences entre les deux choses. Et, pardon et retourner, c'est qu'on n'était pas sérieux. Mais quand il y a un vrai sérieux dans nos vies, que là, c'est différent, je pense. Mais d'avoir une haine pour le péché. Et c'est là où il y a en fait la différence entre les deux. C'est que vraiment, il y a une haine dans nos vies pour ce péché qui me sépare de Dieu. Parce que quand je pêche, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'un coup, ce mur de séparation qui est entre moi et Dieu, il revient. Il y a encore ce mur de séparation entre moi et Dieu quand je retourne dans le péché et je vis dans le péché. Donc, il faut avoir, pour éviter ça, il faut avoir une haine pour le péché dans nos vies. Et là, je prêche à tout le monde, moi inclus là, que là, c'est difficile d'avoir cette haine pour le péché dans ma vie. Parce que ça veut dire me faire un peu mal à ce niveau-là, de vraiment rejeter ses attitudes, rejeter ses manières de faire, rejeter des pensées qui, en fait, ça plaise. Le péché est facile, le péché est plaisant, le péché est tout ce qui fait... La plupart du temps, ça va très bien quand on est dans le péché. Et ça, c'est terrible parce qu'en même temps, c'est ce qui nous sépare de Dieu et fait qu'il faut avoir vraiment une autre attitude et il faut être vraiment accroché à la vérité. De Dieu et la vérité de la parole et de connaître la parole qui nous aide à discerner entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, avoir cette haine. Et après, le dernier élément d'une vraie repentance, c'est lorsque on tourne, je vais vers là dans le péché, je tourne le dos au péché et je vais dans l'autre direction. Et je ne vis plus dans le péché, je vis pour Dieu. Et j'ai une vie comme l'église d'Éphèse, qui Jésus le dit, vous êtes persévérant, vous persistez dans la vie avec Dieu, dans l'obéissance avec Dieu. C'est ça. C'est la dernière étape dans la repentance, de persister dans l'obéissance avec Dieu. Et c'est là où ça nous aide de ne pas retomber quand on persiste dans l'obéissance avec Dieu. Et puis, dans ce plan, c'est très facile de regarder les autres. Quand il y a des choses qui vont mal, c'est très facile de regarder les autres. Et Jésus avait un mot pour nous pour ça. Il dit, pourquoi vois-tu? Le petit grain dans l'œil de l'autre. Pourquoi vois-tu les graines de scieur dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans la tienne. Donc ça, c'est l'autre côté. Et c'est facile de voir tout ce qui va mal avec les autres et de plus voir ce qui va mal chez moi. Et de trouver que ce qui va mal chez les autres, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus important de ce qui est en fait ce qui va pas bien avec moi et qui est entre moi et Dieu. Donc, l'exemple de le scieur, la poussière, ou dans une autre traduction, c'est le petit paille qui est dans ton œil quand tu dis que l'autre, il a un poutre. C'est des images très bizarres quand on les imagine, un poutre, qu'on se promène avec un poutre. Ou on trouve que toi, tu as un poutre. Voilà. Donc, mais c'est ça. Occupe-toi de ce qui est dans tes yeux parce que ça déforme tout ce que tu vois chez les autres, en fait. La déformation de ce poussière dans ton œil fait que tu ne vois plus, même plus, ce qui va mal chez les autres. Et tu vois pas même ce qui va pas chez toi. Alors, garde ça en tête, c'est pas chez les autres en premier, c'est chez moi que je dois regarder et chercher dans mon cœur la repentance, la vraie repentance. Pas la repentance. La repentance n'est même pas un mot que le monde aime utiliser aujourd'hui. C'est un mot qu'il faut définir pour les gens pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est la repentance. Alors, il avait la recommandation, il avait la plainte, il a le plan et maintenant la pratique. Il dit, reviens à ta conduite première. Comment as-tu vécu ton amour avec Jésus au début? C'est ça ce qui est important, de se souvenir, de se souvenir de ça, et de pratiquer ces premières choses que quand on est perdu, comme j'ai dit, il faut revenir là où on s'est dévié de bon chemin. Donc c'est là, c'est après la repentance, c'est revenir à ce point de départ, retrouver le bon conduite avec Dieu et de pratiquer ces choses à nouveau avec Dieu. Tomber amoureux de Jésus de nouveau et de chercher de rester près de lui. De retrouver cet homme qui a... qui a aimé la femme adultère malgré sa vie, qui lui, il connaissait tout. Je ne sais pas si quand Jésus a vu la femme adultère, si pour lui il a eu un peu un défilé de films dans sa tête de tout ce qui va mal avec elle. Mais en tout cas, il savait. Mais quand même, il aimait. Ou comme j'ai dit tout à l'heure, quand il a vu Bartimeus et qu'il a pris le temps pour s'arrêter avec lui, c'est cet homme-là, tombé amoureux de lui et revient à tes pratiques avec lui et de vivre avec lui tous les jours. Alors, et à la fin de ce passage, bon, juste un mot sur qui sont en verset 6. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur, tu détestes ce que font les Nicolaïtes, comme je les déteste moi aussi. On ne sait pas qui c'est ces gens-là. C'est des gens qui suivaient Nicolas. C'est pas Saint-Nicolas, c'est pas le Papa Noël. Mais en tout cas, mais on sait qu'à ce moment-là, il y avait un grand problème avec quelque chose qui s'appelle le gnosticisme. C'était l'idée qu'il y avait la séparation entre la connaissance, et la connaissance c'était roi. De connaître, c'était le roi de tout poursuit dans la vie, c'était avoir la connaissance. Et après, le vécu, la chair, était séparée de ça. Donc, ils avaient une manière de voir que tu pouvais vivre n'importe comment et quand même avoir la connaissance. Donc, tu peux, les faux apôtres disaient, tu peux avoir une connaissance de Jésus, tout ça, et puis tu peux vivre n'importe comment. Faux enseignements, faux doctrines, faux apôtres. C'est exactement ce que Paul disait aux anciens de l'église d'Éphèse lorsqu'il était sur la plage en train de prier avec eux et lui leur donner son dernier mot avant de partir à Rome. Bon, à Jérusalem, puis à Rome. Mais, donc là, il dit, donc il est, d'abord il y avait ce, c'est intéressant de voir comment Jésus a dit d'abord une recommandation, après il a une plainte, après de nouveau il dit une chose positive. Donc il a la plainte et après il dit, il revient sur eux et ils disent, mais, ce fois-ci c'est un bon mais, c'était pas un mauvais mais, et il dit, voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes ce que font ces Nicolaites, comme je les déteste aussi. Et puis, verset 7. Donc, quand on met tout ça dans le panier, quand on le met en pratique, on vit dans la vraie repentance, on change le chemin, on détourne du mal pour suivre Dieu et on est persistant dans tout ça. Quelle est la perspective qui nous est donnée là? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc là, il n'est plus en train de parler qu'à l'église d'Éphèse. Là, il ouvre la voie et il parle à tout le monde. Que l'Esprit dit aux églises, « Au vainqueur, je donnerai à manger de fruits de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Donc, il dit, écoutez, écoutez-moi, écoutez bien ce que j'ai à dire. Donc, c'est la première chose, il faut écouter, prêter l'oreille à ce que dit l'Esprit Saint. Et si tu ne le fais pas, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de perspective pour toi dans le royaume de Dieu. La deuxième chose, c'est, il dit, ô vainqueur, ça veut dire qu'il y a un combat. On a déjà parlé de ça, ce combat entre le bien et le mal. Paul, il dit en Éphésiens 6, il dit, c'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Donc Paul parle de ce combat et Jésus dit, ô vainqueur. Et à une autre place, Jacques, l'apôtre Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, ô vainqueur, Jésus dit, ô vainqueur. Donc, il faut entrer dans ce combat. On ne peut pas être passif dans cette vie avec Jésus. Si on est passif, on a vite perdu notre amour pour lui. Et on perd la piste et on va très très loin, beaucoup plus loin que Moulineux. Puis, la troisième chose là, il dit manger. Manger, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce mot paradis, c'est un grand jardin. C'est un jardin. C'est un parc. Le paradis, ce mot vient d'un mot farsi, en fait, qui veut dire jardin ou parc. Qui n'aime pas aller au parc? Hein? Le parc, c'était la carotte pour nous, avec les quatre garçons qu'on a élevés, que on va aller au parc. Oui, on va aller au parc. On va sortir de la maison finalement. On va décrocher tout le monde de tout genre d'électronique et ce qui est possible dans la vie. Distraction. On va aller au parc dans nos voyages. Quoi de mieux que d'arrêter en famille lorsqu'on est en long voyage au Canada, entre des villes, on va arrêter au parc sur le chemin pour courir, pour jouer. On aime bien tous aller au parc. Le parc, c'est vraiment le top pour tout le monde. Et là, le paradis, le parc, c'est vraiment le top pour nous en tant que chrétiens, parce que c'est là, dans la présence de Dieu, c'est le parc qui était perdu il y a si longtemps dans le jardin d'Éden. Le parc qui était perdu à cause du péché. Et c'est ça la perspective, que si on persévère dans notre vie avec lui, si on écoute la voix de Dieu et on continue, c'est ça l'objectif d'entrer dans sa présence, la présence de Dieu. Et si nous perdons notre premier amour pour Jésus, notre engagement, notre passion de lui suivre, qu'avons-nous à espérer? Pas grand-chose. De perdre notre chemin peut être terrifiant. Le plus souvent, quand quelqu'un est perdu, il tourne en rond, comme je disais tout à l'heure. Et pour sortir de ce cycle de tourner en rond, il faut grimper un petit peu. Il faut prendre une décision de s'en sortir. Je vais m'arrêter, je vais retrouver le cap et je vais retourner, chercher le cap et va dans la bonne direction. De ne plus sentir l'amour peut être terrifiant aussi, en tournant rond aussi. Et la plus souvent dans le mauvais sens. Êtes-vous accroché à votre engagement devant Dieu? Pour trouver le chemin de sortie, il faut revenir là où vous avez quitté le chemin. Souviens-toi. Répands-toi. Applique-toi à faire le premier geste d'amour de nouveau. Prenez-nous les renards, oui, les petits renards qui ravagent nos vignes quand elles sont en fleurs.